Salut à tous et bienvenue sur Carton Vert. Bonne année à tous, on est un peu en retard, mais on est de retour pour le mois de janvier. Et Carton Vert, c'est notre format dans lequel nous parlons d'écologie et de football. Et toi Val, tu voulais nous parler de désobéissance civile.
Et oui, vous vous êtes peut-être offusqué dernièrement des différentes actions menées par certains groupes comme Extinction Rébellion ou Dernière Rénovation. Vous savez, je parle de ces activistes et militants écologiques qui régulièrement prennent position de manière publique en menant des actions coup de poing. En 2022, par exemple, le monde du sport a été touché à de multiples reprises par ce genre d'événement. En mai dernier, au milieu de la demi-finale de Roland-Garros opposant Casper Ruud à Marin Cilic, une militante écologiste s'était accrochée au filet du cours Philippe Chatrier. Ce type d'action s'est répété plusieurs fois l'an passé dans le monde du sport et dans plusieurs pays différents, puisque les matchs Everton-Newcastle du 17 mars dernier, PSG-OM du 16 octobre et Francfort-Fribourg du 10 avril ont tous été interrompus par des faits de ce type. Mais le monde du sport n'est évidemment pas le seul domaine touché par ce type d'action coup de poing. On a aussi beaucoup entendu parler de ces soi-disant sabotages de tableaux de Van Gogh ou de Monet à base de sauce tomate ou de peinture.
Mais les mouvements de désobéissance civile, ça ne date pas de juste l'année dernière ou récemment avec les questions écologiques.
Non, le mouvement écologique n'est pas le point de départ de cette forme de contestation. C'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps et qui a fini par se démocratiser tout au long du XXe siècle. L'un des premiers actes que l'on peut qualifier de désobéissance civile, par exemple, c'était le mouvement des suffragettes en Angleterre. Ce mouvement qui aura fédéré des milliers et des milliers de femmes à travers tout le Royaume-Uni, allant de simples manifestations dans les rues jusqu'à de longues grèves de la faim pour certaines, et dont le but ultime était d'obtention du droit de vote pour les femmes. Droit finalement obtenu en 1918 pour les plus de 30 ans et généralisé finalement à toutes les femmes de plus de 21 ans en 1928. On peut aussi citer la fameuse marche du sel menée par Gandhi en 1930 sur plus de 400 km en Inde, qui aura fédéré plus de 60 000 Indiens et contribué dans un premier temps à l'abolition de la fameuse taxe sur le sel, et dans un second temps à ébranler les fondations de l'Empire britannique et permettre l'indépendance de l'Inde en 1947. Plus récemment, on peut aussi citer le cas du lanceur d'alerte Edward Snowden qui a délibérément transgressé la loi de son pays afin de révéler au monde entier les agissements de la NSA en matière de protection des données. Des révélations qui ont mené à des lois sur les protections des données dans multiples pays dans le monde. Et enfin, je peux aussi vous donner des exemples français avec le mouvement de désobéissance mené par José Bové en 1999 pour lutter contre la Mac-domination et l'insécurité alimentaire, ou encore plus récemment, le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Bref, tout ça pour dire que des actions comme celle-ci, il en existe depuis très longtemps.
Mais alors pourquoi autant de bruit autour de ces, entre guillemets, perturbations ?
Parce que la grille de lecture de ce genre de manifestation est assez complexe. Aujourd'hui, interrompre un match de foot, de tennis, une course du Tour de France, asperger un tableau historique de sauce tomate, ça paraît ridicule et contre-productif pour une majeure partie d'entre nous. Tout comme il semblait absolument ridicule au début du XXe siècle pour une majeure partie de la société britannique d'accorder le droit de vote aux femmes, tout comme il semblait inconcevable en 1930 que le si puissant empire britannique puisse s'écrouler et accepter d'accorder l'indépendance à l'Inde, tout comme il semblait inconcevable il y a 10 ans de légiférer sur la question de la protection des données. Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre d'action, aujourd'hui, semble tout à fait ridicule parce que la société n'est pas encore acculturée aux problèmes environnementaux auxquels on fait face. Et en fait, c'est ce genre d'action-là qui permettent de déplacer le curseur. En proposant des actions coup de poing, on fait réagir les gens, on parle d'environnement. Alors comme c'est quelque chose qui n'est pas culturellement naturel, on en parle négativement. Mais on en parle, on débat, on se demande si en fait ces actions ne sont pas une solution plutôt qu'un problème. Et ça, c'est un procédé rhétorique qui s'appelle la fenêtre d'Overton. C'est quelque chose qui a beaucoup été utilisé récemment, notamment par les partis politiques d'extrême droite dans leur politique de dédiabolisation, et qui consiste à marteler une idée qui paraît extrême pour qu'à force de la répéter, cette idée soit finalement acceptée de tous. Alors l'exemple du FN n'est pas bon puisqu'il est négatif, mais de tout temps, sur toutes les avancées sociales qu'on a connues à travers le monde, il y a toujours eu un flanc radical qui est venu déplacer le curseur de ce qui était entendable et compléter le travail d'un flanc plus modéré. Les suffragettes, Gandhi, Snowden, José Bové et aujourd'hui Extinction Rébellion ou Dernière Rénovation, c'est eux les flancs radicaux dont je vous parle. Et puis finalement, je vous pose une question. Est-ce que déranger les gens 5 minutes pendant qu'ils regardent une course cycliste ou un match de tennis, alors qu'il y a des pages de pub toutes les 20 minutes, ou bien embêter 3 personnes dans un musée parce qu'elles ne pourront pas voir un tableau, est-ce que c'est vraiment ça qu'on appelle la radicalité ?
Alors Val, c'est hyper intéressant ce que tu racontes, mais est-ce que t'as pas un peu oublié qu'on a un média où on parle de foot à la base ?
Non, t'inquiète pas Tom, j'ai pas oublié. Je sais qu'à un moment donné, il faut que je revienne à notre cher football. En fait, ce que je veux vous dire à travers tout ça, c'est que peu importe le sujet, il est important qu'il y ait des gens de tous les domaines qui défendent les causes qui leur tiennent à cœur. On sait que dans le monde du foot, il y a un retard très important quand on parle des enjeux environnementaux, mais ça existe, et c'est pour ça que nous, on a décidé de faire ce podcast, pour mettre en valeur des joueurs, des clubs qui tentent de faire avancer les choses. Le monde du foot est tellement en retard sur les sujets environnementaux que c'est en quelque sorte notre flanc radical à nous. Et donc, je voulais prendre une minute pour vous parler d'un joueur qui a décidé de s'investir dans cette cause-là. Ce joueur, c'est Morten Thorsby. C'est un joueur norvégien qui évolue depuis l'été dernier à l'Union Berlin. Il est resté avant ça 3 ans à la Sampdoria, mais c'est surtout quand il est arrivé à l'âge de 18 ans aux Pays-Bas qu'il a pris conscience du rôle essentiel que pouvaient jouer les footballeurs dans les questions environnementales. Il déclare « Un soir, je me suis assis autour de la table avec mes parents. Je doutais tout simplement de mon utilité en tant que footballeur en pleine crise environnementale. Je pensais même tout arrêter. On est resté quasiment 2 jours à discuter de mon engagement et en l'explicitant, c'est devenu limpide. Mon but dans cette vie, c'est de devenir le meilleur footballeur possible pour pouvoir être un porte-voix audible sur les thématiques écologiques. » Faire du foot un moyen pour sensibiliser les 3,5 milliards de personnes à travers le monde qui consomment du football, donc. Pas une mince affaire, vous me direz, mais Morten n'en démord pas. En plus du geste symbolique de porter le numéro 2 afin de sensibiliser aux fameux 2 degrés à ne pas dépasser pour continuer à vivre sur cette planète, il décide en parallèle de créer sa propre fondation We Play Green, qui a pour objectif à la fois de fédérer toute une communauté de joueurs pouvant influer sur ces questions-là, mais aussi de créer la première ligue des champions durables avec des équipes respectant les critères environnementaux. Parmi les ambassadeurs de la fondation, on retrouve par exemple le Brésilien Marcelo, multiple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, et plusieurs clubs comme les Forest Green Rovers, dont on a beaucoup entendu parler, ou Bodo Glimt, très investis dans les questions environnementales, ont aussi rejoint l'aventure. Alors, nous ne sommes pas ici dans un cas de désobéissance civile claire, puisqu'aucune loi n'est transgressée, mais ce projet sert néanmoins à mettre en lumière et sensibiliser à une cause essentielle. La forme n'est pas la même, mais l'objectif reste le même, déplacer le curseur vers un monde plus vert.
Merci Val pour cette belle chronique. On se retrouve très vite sur 11e art avec plein de nouvelles émissions. Bonne année à tous et à bientôt.